Bonjour, ils sont nombreux les chemins qui mènent au vin. Pour beaucoup, c'est un héritage, une transmission, un loisir transgénérationnel auquel on s'adonne à l'occasion des rassemblements familiaux. Pour d'autres, le virus est venu d'une rencontre, une visite, une émotion ressentie. Et puis la machine se met en route. On a envie d'en savoir plus, de goûter plus, de découvrir des cépages, des régions, des domaines, des vignerons. Au restaurant, on se plonge dans la lecture de la carte des vins, on commence à lire la presse spécialisée, la RVF, Terre de Vin, 12 degrés 5, le rouge et le blanc, à écouter des podcasts, pourquoi pas, La Terre à boire, Tire-Bouchon et compagnie. À force de le voir presque chaque semaine, on commence à bien connaître son caviste, à l'appeler par son prénom. Vous savez, ce moment où quand vous poussez la porte, il vous dit d'emblée « Ah, salut, j'ai reçu un truc qui devrait te plaire ». Mais la transformation ne s'arrête pas là, elle s'étend aux gens de votre entourage qui commencent à vous regarder différemment. On vous consulte sur tout ce qui concerne le vin, lequel acheter, combien de temps le garder, et quel vin pour mon mariage, et quels sont les meilleurs rapports qualité-prix dans le Jura, dans quel domaine dois-je passer quand je serai en Corse, comme si vous étiez devenu un sommelier professionnel. Et puis on vous offre du vin à votre anniversaire, à Noël, pour la fête des pères ou des mères, du vin ou des accessoires, verres, carafes, des livres également. Et il en paraît presque chaque semaine. Aux amateurs de vin, on offre aussi volontiers l'abonnement pour 6 mois à une box de vin ou encore une soirée dégustation où vous retrouvez d'autres œnophiles pour écouter un professionnel vous parler de sol, de climat. Vous êtes alors heureux de retourner à l'école tant le goût pour le breuvage lui-même est indissociable du plaisir d'apprendre. Oui, apprendre inlassablement sur cet univers infini et sans cesse renouvelé. Un apprentissage à la fois théorique et sensible qui par-dessus le marché s'accompagne de belles rencontres et de soirées joyeuses. Alors, si à travers ce modeste programme nous contribuons à satisfaire cet appétit de connaissances et de sensations, nous voilà les plus heureux des podcasteurs. Ce 63e épisode se nomme « Les chefs-d'œuvre » de Manuel Pérondet. Bienvenue dans La Terre à boire. Bonjour Manuel Pérondet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ainsi notre premier invité de 2020.
Eh bien écoutez, avec plaisir, meilleurs vœux pour cette année.
Merci, bonne année. Bonne année à tous. Alors je dis à tous parce que exception, 2020 oblige. Dispositif exceptionnel, on a du public. Bonjour le public. Bonjour. Voilà. Là, c'est carrément une foule venue écouter nos digressions, nos échanges à propos du vin et boire aussi quelques vins, puisque pour une fois, le public va pouvoir déguster la même chose que nous chroniquons à la table. Et à la table, justement, Manuel, on va parler de ton parcours de surdoué du vin et parler de cette entreprise, chef-d'œuvre, que tu as créée en 2012. Mais d'abord, je te présente les chroniqueurs de La Terre à boire qui sont présents aujourd'hui autour de la table. Il y a à ma gauche notre passionné passionnant, Patrice Defay, bonjour.
Bonjour, et puis bonne année.
Bonne année, c'est de rigueur. Il y a Marie, notre caviste urgentiste. Bonsoir Marie.
Enchantée.
Et enfin, il y a notre vigneron propre et naturel, il a pris sa douche. Bonsoir Philippe Viette.
Bonsoir, bonne année. Je me suis lavé.
Es-tu aussi propre que tes vins?
J'espère.
Alors... bienvenue à tous, bonne année, voilà, on ne va pas faire des tonnes sur les vœux, mais on vous souhaite à tous de boire de bons et de beaux vins, de passer une belle année de dégustation, de découvrir des belles choses. Et comme je disais en intro, le vin c'est aussi beaucoup l'apprentissage de l'univers. On va parler avec toi, Manuel, de cette histoire, la tienne, je le disais, de surdoué du vin un peu. On commence par une naissance à Autun, en Saône-et-Loire, en 1980. Oui, monsieur aura 40 ans cette année.
On prépare ça bien.
Et déjà, un CV bien rempli. Je ne vais pas citer toutes les étapes, hein, mais juste quelques marqueurs ici et là. Sommelier au Georges V à 22 ans, puis le Bristol, puis chef sommelier au Taïwan à 28 ans, chef sommelier ensuite au Royal Monceau. Donc là, c'est le parcours voilà, en flèche.
C'est minimum.
Oui, c'est vrai. Si j'avais été sommelier, j'aurais dû faire ça. Moi. Au passage, quelques titres hein, glanés dans ces concours. Meilleur jeune sommelier de France en 2005. L'année suivante, tu es finaliste du concours de meilleur sommelier de France tout court. Donc plus les jeunes, mais les grands. Et qui est un titre que tu remportes en 2008. Ainsi que celui de meilleur ouvrier de France 2011, évidemment, dans la catégorie sommellerie. Donc tout ça, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est Wikipédia, c'est le site.
Voilà. C'est pour de vrai.
Voilà. Pour une fois, c'est vrai. La première question, avant qu'on déguste et avant qu'on te harcèle de questions, c'est D'où te vient cette passion? Je le parlais, je le disais en intro aussi, on a tous finalement un parcours qui nous relie au vin. Parfois, c'est une tradition familiale, un héritage. Est-ce que toi, c'est ça, une transmission, une découverte, des influences? Et l'autre question qui va avec celle-là, c'est à quel moment tu comprends que tu as quand même des capacités gustatives un petit peu hors de la norme?
D'accord. Moi, j'ai commencé le vin dans ma tête, mais bien avant. En fait, ce qui m'émerveillait quand j'étais jeune autour du vin, c'était les moments de partage, de joie de mes parents qui, de manière un peu ironique, avaient créé un petit club où chacun mettait dans un cochon de l'argent et ils faisaient des super bouffes le week-end. Et ma mère est artiste, mon père est médecin, et à l'époque, quand j'étais jeune, je les voyais le dimanche. Ils avaient le livre de Paul Bocuse, de Georges Blanc, de Trois Gros, etc. Et c'était la fête à la maison. Et ma mère brodait les tabliers de chaque convive avec le nom des vins qui affichaient. Et à l'époque, c'était des très très belles bouteilles, puisque mon père, qui était quand même médecin en Bourgogne, était le médecin de la mère de Jean-Charles Cuvelier au domaine de la Romanée-Conti, donc ça, forcément il y avait des sorties obligatoires.
Est-ce qu'il était payé en bouteille parfois?
Pas forcément au domaine de la Romanée-Conti, mais partout en Bourgogne, mon père a un petit peu gravité. Puis après, ma maman étant de Touraine, j'ai aussi attendu un petit peu dans la voiture devant chez Huette et compagnie. Bref, alors j'ai été émerveillé par ça, ça a été peut-être un peu le déclic. Et puis après, je m'ennuyais profondément à l'école et j'ai voulu dire à mon père que j'aimerais bien faire de la cuisine un jour. Et là, le vrai déclic, parce que on en parlait tout à l'heure, ça a été plutôt à l'école hôtelière. Donc moi, j'ai dit à mon père, papa, je veux faire de la cuisine. Il m'a dit, d'abord, si tu veux vraiment savoir ce que c'est, il faut que tu travailles dans la restauration. Et après, tu pourras faire de l'école hôtelière. Et donc, c'était à l'école hôtelière que j'ai découvert le vin. Et ça a été surtout un professeur qui s'appelait Denis Delmas, qui était mon premier professeur de restaurant, qui lui m'a complètement mis la puce à l'oreille. Et alors, ironie du sort, là, je regardais la télé le soir après mes premiers cours de œnologie, et je vois un reportage sur Éric Baumard au Georges V, qui, dans Des Racines et des Ailes, était suivi par les journalistes. Et je vois ce gars se préparer au concours du meilleur sommelier du monde. Et je vois comme un enfant qui veut jouer au football Zinedine Zidane à la télé. Donc je n'ai eu qu'un seul objectif à partir de cet âge-là, c'était de travailler avec Éric Baumard à Georges V et donc d'apprendre le vin pour pouvoir intégrer plus tard la sommellerie. Et pour répondre à la dernière question, à quel âge je me suis rendu compte que j'avais quelques capacités? Effectivement, c'est un long apprentissage le vin, donc il fallait beaucoup déguster. Mais comme je travaillais dans une maison après chez Taïwan qui avait une énorme cave, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup déguster de vin. On avait 6000 références, il y avait presque 350 000 bouteilles dans la cave du restaurant. Et j'ai énormément dégusté. Et quand je me suis présenté à la sélection du concours du meilleur jeune élève sommelier de France, parce que je voulais marcher dans les pas de Zinedine Zidane, j'ai retrouvé les deux vins à l'aveugle, précisément. Et donc, les gens qui m'entouraient m'ont dit peut-être que toi.
Un truc.
Voilà. Et donc, j'ai continué comme ça. Je me suis beaucoup entraîné, puis surtout beaucoup allé dans le vignoble. C'est la clé pour avoir un palais affûté et savoir de quoi on parle.
Merci. Hein. Effectivement, c'est la naissance précoce d'une passion. Et puis, ce que tu dis à propos de Zinedine Zidane, ça m'évoque une réflexion que m'avait faite Patrice un jour quand on commençait ce podcast. Il y a un truc fabuleux dans le vin, c'est que tu veux rencontrer Mick Jagger, c'est possible. C'est-à-dire que nous, on appelle, quand on a appelé Pierre Auvernois, on était en face de quelqu'un qui pèse aussi lourd que Mick Jagger dans le rock. C'est plus facile de rencontrer.
Les barrières, c'est un produit qui fait tomber les barrières sociales, qui peut connecter les gens partout et qui peut les faire passer un grand moment ensemble. Ça, c'est, il n'y a que le vin pour ça.
On est ravis d'avoir Kylian Mbappé à notre table.
Ton professeur, Denis Delmas, il a un rapport avec Emmanuel Delmas?
Alors, je pense pas, et je salue au passage Emmanuel, mais je ne pense pas. C'était un professeur de restaurant, donc moi j'étais à l'école de hôtelière de Poligny dans le Jura, parce que c'était une école très spécialisée dans la restauration. Et Denis était, je crois qu'il est à la retraite maintenant, mais il a été pour moi un phare pour l'art de l'apprentissage autour du vin. Et je me suis tout de suite
retrouvé. Un métier de rencontre.
Voilà, mais rien à voir avec, je pense, Emmanuel.
Alors, ce petit parcours étant fait, on va vite parler de chef-d'œuvre parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette entreprise que tu as créée, un club de dégustation, également une box de vin, également différents services qui vont avec. On va commencer, c'est de coutume dans cette émission, par déguster un vin. Oui. Alors, ça, c'est pas de coutume, mais on va commencer par le tien. On va comprendre un petit peu plus tard pourquoi. D'abord parce que tu as apporté un blanc et qu'on essaye d'avoir quand même une certaine logique dans l'échelle. je te laisse le présenter. Du coup, oui. Qu'est-ce qu'on a dans nos verres? Petite incise, je précise que pour cette soirée exceptionnelle, on a des verres exceptionnels. On a les verres de la maison Sidonios qui sont, dès qu'on les prend en main, on comprend qu'on n'est pas face à des verres classiques. Ils pèsent moins qu'une plume et ils sont assez, voilà, assez magnifiques.
C'est des verres effectivement exceptionnels que j'ai chez Chef d'œuvre. Alors, la bouteille que j'ai apportée, elle reflète à peu près tout ce que j'aime en termes de diversité. Le vin, c'est vraiment de la découverte, un parcours, mais c'est surtout aussi de l'observation et du temps. Je suis aussi Master of Port et je connais bien la région du Douro.
Je n'avais pas cité ce titre, effectivement.
La région du Douro est une région qui, pour moi, est en pleine révolution. Et ce que j'aime, en tout cas, dans mon métier au quotidien, c'est commenter l'actualité, c'est voir comment les régions pivotent, comment elles offrent de nouveaux plaisirs aux consommateurs, et surtout de comprendre ce qui s'y passe. Et en l'état, elle est en train de... Cette région du Douro, que vous connaissez tous peut-être pour les Portos, eh bien, elle est en train de pivoter. Et là, on regarde un petit peu 300 ans en arrière et on se dit, mais pourquoi est-ce que, finalement, ils ont fait que des vins moelleux dans cette magnifique région où il y a des schistes, où il y a de l'altitude, où il y a finalement autre chose que de la canicule et du soleil, hein, comme on pourrait toujours le penser. Et donc le Douro est en train aujourd'hui de reproduire un modèle de vin sec avec, je pense, à la tête de ce mouvement, un homme qui a franchement marqué son époque. C'est un des génies de l'Europe, en tout cas en termes de vinification et en termes de vision sur les vins. Il s'appelle Dirk Nieport. Et donc la maison Nieport est une maison connue, bien sûr, pour ses grands vins de Porto. Mais maintenant, Dirk a complètement révolutionné la région en ayant compris, bien sûr, l'aptitude de ces lieux à produire des grands blancs d'équilibre, inspiré un petit peu aussi en style de la Bourgogne. Donc ça, c'est bien sûr de la découverte, c'est ce que j'aime faire découvrir, mais c'est aussi, après, vous allez voir à la dégustation, quelque chose qui s'inspire aussi d'autres régions et qui ont compris un petit peu ce qui marche. Donc là, c'est la cuvée Reserva du domaine, c'est le millésime 2018. Ce sont du Rabigato et du Codega qui sont fermentés en barrique de chez François Frère. Et le modèle est typiquement bourguignon, c'est-à-dire sélection parcellaire, vieille vigne et surtout vigne en ventée, équilibre frais. On est à l'opposé total de ce que l'imagination pourrait suggérer pour un blanc de cette région assez chaude du Douro, au contraire. Et voilà, ça c'est l'antithèse de ce que furent finalement les blancs dans cette région, et c'est peut-être
l'avenir de cette
région. Donc voilà vers quoi j'aime regarder, voilà vers quoi ce que j'aime applaudir, et un des plaisirs que j'aime faire découvrir dans les soirées de chef-d'œuvre.
Qu'est-ce que vous pensez de ce vin, chers amis autour de la table?
Ma première remarque, c'est que Reserva, j'imagine qu'on a un élevage un petit peu...
Alors oui, ça fait 18 mois d'élevage, les réservas de Nieport sur cette cuvée. Il y a une petite cuvée qui s'appelle Redoma tout court, elle fait que 12 mois.
Est-ce que tu peux nous expliquer si le côté fumé du vin, tu l'attribues plutôt à l'élevage ou au sol?
Il y a deux qualités qui vont cette nuance, un petit peu cette petite patine boisée bourguignonne qui est facilement reconnaissable, en tout cas les amateurs de Bourgogne.
On sent l'influence bourguignonne.
Comprennent un petit peu l'intention, en tout cas, de ce domaine ici, c'est de s'inspirer un peu de la Bourgogne, mais tout en préservant aussi une identité minérale très différente des calcaires. Là, vous avez bien sûr la petite patine boisée qui est bien sûr encore assez marquée, c'est 2018, mais qui se fond pas mal avec le temps d'ailleurs.
Oui, et qui est plus complexe qu'un simple boisé. On va vers le fumé, il y a une chauffe peut-être intéressante en tonnellerie.
Tout à fait, c'est la tonnerie François à Saint-Romain. Et puis, il y a aussi, là, c'est des. Il faut savoir que le bloc granitique du Douro accueille 60 000 hectares de schiste au milieu, et que ça donne aussi, on le sait, dans certains vins, notamment on le sait dans la vallée de la Gly ou dans le vignoble de Bagnols ou autre, ça procure à certains blancs, même si les cépages sont autres que le chardonnay et autres, ça procure des sensations un peu fumées, pierres chaudes, etc. Donc je pense que la combinaison aromatique là est la simple réflexion de ces deux paramètres.
Très explosif et très salin, comme tu le disais.
Voilà. Ce qui est très admirable, c'est que cette cuvée, alors je vous montre pas l'étiquette, mais à votre avis, ça titre combien d'alcool?
Je l'ai vu, donc je ne dirai pas. C'est assez peu alcoolique.
C'est
assez peu alcoolique.
Et pourtant, c'est très puissant aromatiquement.
Alors, il y a beaucoup de puissance aromatique, mais ce que j'aime, c'est le caractère digeste, très sapide, très salin, salivant, évidemment, avec finalement cette attaque de bouche, ce coffre qui rappelle les blancs bourguignons un petit peu. Hein. Mais voilà, je pense qu'on se libère un petit peu de l'univers du chardonnay dans la teinte qui est un peu nuancée, aromatique. On n'est pas dans la poire, dans ce que la châtaigne, la noisette, tout ce que le chardonnay peut accueillir quand il est travaillé de la sorte. Mais en tout cas, je voulais vous apporter ça parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait acheté soi-même, et c'est surtout le genre de vin qu'il faut suggérer. Des fois, j'aime bien faire déguster à l'aveugle, mais il faut prendre les gens par la main et puis leur dire voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le Douro, et mettez des mots sur des sens.
Justement, les 11 degrés, c'est lié au cépage,
c'est
lié
non, c'est des choix de date de vendange.
C'est des choix de récolte.
C'est des choix de date de récolte, ce qui
ouvre... acide, un peu tôt, c'est ça.
Oui, alors, en fait, il y a deux grandes écoles. Hein. Il y aura, dans l'univers du vin aujourd'hui, il y a ceux qui vont défendre l'hypramaturité de la peau, des pépins, etc., en disant qu'il faut aller jusqu'au bout du rêve. Mais il y a ceux qui disent, avec le réchauffement climatique et avec, évidemment, certaines contraintes comme celle de la vallée du Rhône, il y a
fraîcheurs.
Aussi peut-être un choix un petit peu plus drastique. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, lui préfère évidemment les vins épurés, un peu digestes, et qui, voilà, avec beaucoup d'entrain et de sapidité, offre comme ça ce genre de relief. Si on était allé à 14,5 sur ce genre de blanc, on aurait effondré.
Oui, enfin, 11, c'est quand même pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont même pas, à 12.
Alors,
quelle est la maturité physiologique des cépages utilisés ? C'est la vraie question.
Je sais pas. Alors, Dirk Nieport, lui, il faut savoir un petit peu que.
Et tu la poses.
2018,
et je la pose, mais j'ai la bonne personne en face.
2018, pour ceux qui ont suivi un peu le millésime, c'est un millésime relativement intéressant en latitude nord, mais dans le sud. Ça a été beaucoup de pression fongique, pas mal de pluie, des épisodes évidemment un peu plus capricieux. On l'a vu, nous, en tout cas, en vallée du Rhône, dans le sud de la France.
Voilà. Un peu
et finalement, les stigmates sudistes se sont un peu effacés. Alors là, c'est un choix de date de vendange. C'est un choix, vous savez, alors, je pense que dans cette région, in fine, on fait aussi un peu comme on peut des fois. Et moi, j'aime bien, je juge le résultat. L'intention, c'est quelque chose, mais j'aime juger le résultat.
D'accord.
Parlons un peu de chef-d'œuvre.
Bien sûr.
Alors, Philippe, toi, tu as fait partie du club.
Alors,
dans
moi,
tes
oui,
lointaines années parisiennes.
Moi, j'ai rencontré Manu parce que à l'époque, Manu animait le club œnologique de l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. Chef-d'œuvre était pas encore tout à fait lancé. Où ça, c'était déjà dans les tuyaux, mais voilà. Donc en fait on avait déjà droit à des dégustations assez exceptionnelles avec Manu. Moi je me souviens notamment d'une verticale sur une cuvée Frédéric Émile de Trimbach qui était plutôt sympa. On était descendu jusqu'à 91, je crois. C'était assez mémorable. Et puis naturellement quand Manu a monté sa structure chef-d'œuvre, donc j'ai emboîté le pas parce que je trouvais ça intéressant. Moi j'étais en plus à l'époque en pleine réflexion sur une reconversion. Je passais mes niveaux là, du WSET, et puis j'avais déjà en tête d'aller bosser dans le vignoble. Donc je trouvais que apprendre le vin avec quelqu'un comme Manu qui a déjà qui a une capacité sensorielle qui est effectivement au-dessus de la moyenne, je trouvais ça super intéressant. On a l'accès à des vins qui sont difficilement accessibles pour le grand public, et c'est ça qui est génial. Et puis Manu aime bien piéger les gens, et justement des vins comme celui qu'on a dégusté, c'est tout à fait ce à quoi on avait le droit pendant les séances de dégustation.
Des surprises.
C'est-à-dire des surprises, des trucs complètement improbables où tu te dis non, c'est pas possible, et puis en fait si. Donc ça c'est vraiment génial.
C'est là qu'est née l'envie de créer chef-d'œuvre dans ces rencontres en dehors de ton métier de sommelier.
La genèse de chef-d'œuvre, pour être très concret.
Raconte-nous.
En fait, quand je suis devenu meilleur ouvrier de France en sommellerie, un de mes associés d'une première structure que j'avais créée qui m'a dit: Manu, c'est pas normal, toi tu peux accéder à ce genre de bouteille, mais nous c'est plus difficile, pourquoi est-ce qu'on fait pas une commande groupée tous ensemble de quelque chose que t'aimes bien? J'ai dit mais écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez commander? Quel profil, quel prix, moi je vous fais une commande sans problème. Il m'a dit ce que tu veux, fourchette 12-25 euros, comme si c'était pour toi. J'ai dit écoutez, là il faut que vous achetiez absolument les 2008 de Loire, les Chenins sont nés avec des pH assez frais, il y a de la maturité, ça va truffer, à 12 euros vous aurez des Mont-Louis.
Ça va truffer.
Ça va être de la folie, à 12 euros à Mont-Louis, à Vouvray, vous avez des bouteilles qui vont être exceptionnelles et je vous invite à miser là-dessus. Donc j'ai décrit deux domaines, je me rappelle, je suis parti au ski. J'ai dit pourquoi j'aime et pourquoi j'achète pour moi. Et ensuite, j'ai envoyé un petit bon de commande avec un petit PDF comme ça. Et j'ai présenté les domaines. Et quand je suis revenu de vacances, mon copain est revenu tout frais, tout pierre, et il y avait 950 bouteilles sur la commande. Donc deux palettes. Et je leur dis, mais écoutez, moi, je ne peux pas vous livrer. Et puis, c'était une logistique de fou parce que chacun avait pris deux, trois bouteilles de ci, deux, trois bouteilles de ça. Et je dis, écoutez, moi, je vous propose quelque chose de plus fun. Plutôt que de vous envoyer vos bouteilles vulgairement à la maison, vous allez venir les chercher. Je vais vous faire une soirée et je vais vous faire goûter une verticale de ces mêmes vins pour que vous puissiez non seulement comprendre un peu ce qu'est l'effet millésime et les équilibres dans ces régions, mais surtout vous projeter dans le temps et dans l'avenir. Et quand on a fait cette soirée-là, il y avait 100 personnes et les gens, donc je leur ai fait déguster.
Ah oui, 100 personnes quand même.
Là, il y avait, parce que chacun, il y avait 40 personnes qui étaient venues avec leurs copains, voilà, plus l'organisation et tout. Donc on était 100 et les gens ont dégusté des vieux millésimes. Et quand les gens sont sortis, ils m'ont dit, Manuel, si j'avais goûté ces vins avant, et si vous me les aviez expliqués comme vous l'avez fait, alors je m'en serais acheté plus. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas pour nous un club qui nous permette de faire ça de manière régulière avec une super soirée et surtout de nous enrichir, de progresser, de connaître et de, surtout d'aller, d'avoir accès à ces vins. Voilà. Et donc j'ai pitché l'idée à deux personnes qui venaient de vendre leur société Screen Tonic à Microsoft et ils ont dit que banco, on y va. Et on a créé chef-d'œuvre comme ça. Et ça a commencé le 19 juillet 2012 avec une soirée dégustation au restaurant Asian Avenue Georges V, qui était un bar qu'on avait privatisé. Et il y avait 40 personnes. Et ces 40 premiers membres qu'on a, ils sont toujours pour la majorité abonnés à chef-d'œuvre. Voilà. Aujourd'hui, on a 1200 membres.
1200 membres.
Voilà, et on fait pour lesquels on fait merci.
C'est impressionnant.
Voilà, pour eux aujourd'hui, enfin nous on s'annonce un peu comme un stimulateur de passion. On fait une soirée par mois avec les membres, donc qu'on accueille chez nous, chez Chef d'œuvre. On l'a fait. Ce sont des soirées relativement haut de gamme, at cost, avec vraiment des très grands vins et des bons moments autour de la nourriture. On fait aussi des masterclass, des cours d'œnologie, tout ce qui stimule la passion du vin, des ventes flash une fois par jour, des coffrets de dégustation que les gens reçoivent à la maison, puisque en fait on s'est aperçu donc que les gens n'avaient pas l'opportunité de déguster eux-mêmes ces vins, et comme ce qu'on voulait faire en fait c'était reproduire le modèle de France Loisirs
reproduire le modèle de France Loisirs, ça fait rêver.
Simplement, les box n'existaient pas quand on a créé Chef d'œuvre. Et nous, l'idée de mettre des bouteilles dans un coffret, sincèrement, les box n'existaient pas, le petit ballon n'existait pas, etc. Donc, on a simplement envoyé nos coups de cœur à la maison. Voilà. Et donc, comme c'est relativement. Les gens viennent en communauté, en soirée avec leurs amis, des fois, ils peuvent prendre des places pour leurs amis et autres. Eh bien, de fil en aiguille, le club s'est quand même un petit peu élargi. C'est pas mal de réseaux et on essaye de donner la meilleure expérience possible autour du vin en stimulant la passion, en étant extrêmement précis à chaque fois dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime proposer, à la fois dans les artisans du goût, à la fois dans les vins, à la fois dans les verres, comme on l'a aujourd'hui avec les verres de Sidonios. Enfin, bref, on essaye d'aller jusqu'au bout du rêve.
Alors, 1200 membres du club, sans faire la plaquette exactement, mais parlons pour que les gens comprennent. Les gens sont abonnés. Pour être membre, on est abonné. Je crois que c'est 5 euros par mois,
Il y a trois offres. Il y a les coffrets qui sont deux bouteilles ou trois bouteilles. Il y a la carte membre qui elle donne accès à ça. Donc là, effectivement, c'est 5 euros par mois, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mmh. Mais par contre, on a plutôt dans la base de chef-d'œuvre, on a à peu près 900 abonnés au coffret. Parce que ce que les gens veulent chercher, c'est recevoir vraiment les vins à la maison. Donc c'est plus la demande. Après, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils aiment. Et chez nous, ils viennent chercher donc les vins que j'achète pour moi, c'est-à-dire des grands domaines et puis aussi des grandes bouteilles pour lesquelles un particulier a quand même du mal à accéder. Donc on arrive à ouvrir quand même pas mal de grandes portes grâce à mon passé dans la sommellerie et les vignerons qui trouvent le travail de chef-d'œuvre assez qualitatif et au service d'un plaisir pour les particuliers nous servent bien sûr assez bien. Et donc on a un équilibre comme ça, 800-900 abonnés au coffret et puis à peu près le reste en carte membre.
Et ensuite, il y a les soirées.
Alors, il y a les soirées également. Donc, les soirées, globalement, c'est chacun ça vient quand il a envie, quand il veut, avec ses amis. Chacun prend ses places sur le site. Ce sont des soirées que l'on veut volontairement très qualitatives, mais surtout, il faut le savoir, nous, on le fait at cost. C'est-à-dire que quand on fait une verticale de Chambertin avec des truffes, c'est le prix des bouteilles de Chambertin avec des truffes divisé par le nombre de convives. Ça, c'est très important parce que pour nous, l'expérience doit être stimulante, enrichissante et surtout, les gens doivent en avoir pour leur argent. Donc, quand on paye 20 euros, 30 euros, à l'époque, je me rappelle, quand on avait commencé chez Dove, on les faisait payer 10 euros. Mais là, ça a été vraiment un gouffre. Donc, on s'est un peu calmé. Mais comme
là, on perd de l'argent, on va changer un peu.
Voilà. Mais voilà, on fait venir les gens et on leur fait des très, très belle soirée. Également, pareil, c'est pour les masterclass ou les cours d'œnologie que je dispense, c'est un peu le même principe. Et puis, depuis quelques semaines, on le fait aussi un cours en ligne où les gens reçoivent à la maison 6 petits échantillons de 2 centilitres avec un cours où pendant une heure, je dispense un peu de savoir sur ces grandes bouteilles.
Et ça, sauf erreur, je pense que vous êtes les seuls à le faire. Enfin, j'ai pas vu beaucoup d'expériences où on reçoit des dose de dégustation pour un cours à distance.
C'est ça, c'est un peu une nouveauté. On a voulu d'abord accompagner une start-up. On aime bien, nous, en tant qu'entrepreneurs, accompagner les start-up. Aussi, d'oignons sur la fête avec les verts, mais surtout après avec Vinovae, qui est une petite start-up qui reconditionne donc des vins qu'on leur fournit en bouteille sans prise d'air. Et donc, ça conserve, ça, il faut le savoir, les qualités organoleptiques pendant à peu près 2 mois du vin. Et donc, les gens à la maison peuvent profiter et goûter des vins de légende. En tout cas, c'était ce qu'on a voulu avec ce masterclass. C'était démocratiser, entre guillemets, l'accès au grand vin et leur donner voilà, simplement du bonheur dans le verre en dose dégustation avec, évidemment, le support qui va avec. Parce qu'une bouteille sans l'histoire, c'est pas pareil.
On est bien d'accord. C'est pas nous qui allons contredire là-dessus. Sans histoire, on ferait pas beaucoup d'émissions. Vous avez, vous, déjà fait des soirées? Alors, Philippe, toi, tu as déjà fait des soirées de manuel.
J'en ai fait soirée sur soirée, lui. Ça.
C'est fini maintenant. C'est le matin, je me lève tôt pour aller dans mes vignes.
Ouais, c'est ça.
Mais des soirées dégustation, c'est vrai que je le disais aussi en intro, on se fait offrir ce genre de choses. Voilà, quand on aime le vin, c'est un cadeau facile. Soirée dégustation, tu as déjà fait ça, toi,
oui,
Patrice?
C'était un cadeau, c'était une belle expérience à l'école du vin sur justement les grands crus. Donc c'est vrai qu'on a bu un château Margaux. Moi, j'ai pas spécialement l'occasion d'acheter un château Margaux. Donc c'est aussi la possibilité d'accéder, de toucher du doigt concrètement des grands vins qu'on n'a pas l'habitude ou l'intention d'acheter à 500€ la bouteille. Donc c'est vrai que c'est pour moi, c'était bien sûr faire la dégustation, mais aussi toucher quelques bouteilles exceptionnelles.
C'est un élément clé, ça. Les gens viennent particulièrement pour, enfin, quand ils sont déjà initiés, déjà œnophiles confirmés.
Il y en a pour tous, il y en a à tous les étages. Il y en a qui sont experts, qui adorent, qui collectionnent, mais il y a aussi ceux qui découvrent simplement. Cet après-midi, je recevais un message très touchant d'une jeune étudiante qui sont abonnés. Ils sont 3 abonnés à Chef d'œuvre et ils se partagent tous les mois leurs petites bouteilles que je leur envoie. Bref, donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment avoir l'envie de passer des bons moments autour du vin. Le vin attire différents profils, et qu'on ait un collectionneur ou qu'on ait 2 personnes qui veulent apprendre, en fait, il n'y a pas de sujet. Le vin fait tomber les barrières, et celle-là également. Donc en fait, dans une soirée, j'ai autant de plaisir à recevoir 3 étudiants que quelqu'un qui a 40 000 bouteilles perso, quoi.
Marie, toi, tu animes également, alors peut-être pas des clubs de dégustation, mais...
Alors, on n'entend pas souvent parler de Margaux hein, chez moi.
Toi, mais... tu vas chez les gens pour animer une soirée autour d'une thématique...
Oui, j'ai lancé il y a moins d'un an une entreprise d'atelier de dégustation. Le but non revendiqué dans un premier temps étant de faire découvrir des vins plutôt libres et plutôt vivants, comme on le dit aujourd'hui. Et donc évidemment pas à ton échelle, mais je me déplace chez les gens où ils viennent à la maison, ou alors on organise des soirées d'animation chez le caviste, donc, parce que je suis caviste de formation. Voilà, mais je n'emploie pas les vins, des vins aussi mythiques que ceux que tu proposes, bien évidemment.
Il n'y a pas que
ça.
Non,
ce qui est intéressant dans le monde du vin, je trouve en tout cas, c'est la trait que, en fait, c'est très français, ça participe à l'art de vivre, la nourriture revient complètement au centre de nos assiettes, la manière de consommer et autres. Et donc, effectivement, d'abord, pouvoir aller auprès des particuliers, le faire autour de moments de vie. C'est les moments de vie, en fait, qui marquent les gens et qui fait qu'ils se reconnaissent derrière telle ou telle chose. C'est pas simplement... Internet trouve très vite ses limites. Et c'est pour ça que nous, on a voulu coupler un petit peu la facilité d'achat, mais surtout, après, l'expérience. Moi, je suis sommelier, donc moi, ce que je veux, c'est rencontrer des gens et leur faire rire des moments. Donc, bravo d'avoir initié ça, parce que les particuliers demandent énormément ça.
Et les moments d'éveil, en fait, comme j'aime les appeler.
En parlant d'éveil, nous, chez Chef d'œuvre... Des gens nous ont dit aussi, nous, j'aimerais bien pouvoir transmettre à mes enfants le goût du vin. Et on avait créé comme ça pour eux. Donc
à partir de 8 ans.
Un parcours Kids. On avait fait Chef d'œuvre Kids pour les enfants, où les enfants, à leur majorité, reçoivent...
Avec héritage.
Héritage, voilà, ils reçoivent une cave qu'on construit tranquillement comme ça, où les gens, petit à petit, en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils découvrent, ils peuvent leur transmettre la passion. Ouais. Parce que je pense que le vin, c'est que de la transmission, en fait. Hein, c'est vraiment ça.
Beaucoup d'émotions. Moi, j'utilise comme porte d'entrée les accords mes vins, quand on... La connaissance suffisante ou qu'on te l'apporte de ton client pour avoir des connotations familiales, des souvenirs en commun, enfin tout ce que tu décris sur ton enfance, on comprend que c'est constructeur.
Bien sûr.
Après, moi, ce que je trouvais intéressant aussi dans la box que Manu envoie tous les mois.
C'est une boîte, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est une boîte de 3 vins. Pardon.
Ça, la légende.
Merci l'Académie française.
Ah, dingue.
C'est qu'on avait on avait le choix, en fait, les 3 vins étaient progressifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a une bouteille qui est aux alentours de 10-15 euros, qu'on peut boire assez rapidement avec les copains.
On appelle à l'improviste.
Voilà, à l'improviste. Après, la deuxième bouteille, c'est une bouteille avec un peu plus de coffre et qui est dans les alentours de 20 à 25 euros. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Ça s'appelait Dîner en ville.
Voilà, ça s'appelait Dîner en ville. Et puis, voilà, je vais me faire taper sur les doigts.
Et la troisième.
Et la troisième, donc, c'est Sortez l'Argenterie, qui est la bouteille, la bouteille phare du coffret qu'il faut... et qu'il faut vraiment garder pour des occasions exceptionnelles et qu'il faut un peu attendre. Donc ça, c'est sympa. Donc, il y a à la fois des vins qui sont effectivement un peu exceptionnels ou difficilement accessibles, et puis d'autres vins qui sont peut-être un peu plus facilement trouvables et puis sur lesquels on peut avoir un plaisir immédiat.
Alors, c'est le moment où on va jouer un peu. En fait, on va se livrer à un exercice qui est la dégustation à l'aveugle. À vrai dire, c'est quelque chose qu'on n'impose pas aux invités d'habitude, parce que je n'ai pas envie que les gens, les invités, aient l'impression
qu'on est... C'est pas Mbappé non plus, les invités.
C'est pas toujours Kylian Mbappé qui est là. Mais l'idée, c'est jamais de piéger les invités. Mais en fait, quand j'ai échangé avec l'équipe, en leur disant...
Bah, c'est Manuel, pas le brief qu'on a reçu. Hein.
Manuel Perrondet a accepté d'être notre invité. Et là, tout de suite, ils sont enflammés comme des fous. Philippe a dit, non mais Manuel, il adore la dégustation à l'aveugle. Il l'utilise souvent dans ses soirées. Il faut lui trouver des trucs. Et là, je ne pouvais plus les retenir sur le groupe. Et quand je t'ai rappelé pour en parler, oui, effectivement, tu m'as confirmé. J'ai rien contre ça. C'est un outil pédagogique,
bien sûr,
qui permet en fait d'utiliser la réflexion, la déduction pour arriver éventuellement au résultat. On se fiche un peu de savoir si on arrive ou pas, même si évidemment il y a un petit jeu, on a envie d'y arriver. Mais l'idée, c'est que c'est un outil en fait. C'est utile de raconter comment toi tu vas de déduction en déduction essayer de démettre une hypothèse.
En fait, je trouve que la dégustation à l'aveugle, c'est une grande école d'humilité. Ce qui ramène bien sûr à une dimension du vin, voilà.
Tous nos invités ne sont pas humbles, mais je devrais pas le dire.
J'espère en faire partie.
Dans la majorité quand même.
Les meilleurs le sont souvent.
Les meilleurs le sont, en effet.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le vin, en fait, pour moi, c'est un moment sensoriel et c'est surtout un appel à des sens, à la concentration. Et souvent, en fait, quand on déguste du vin à table, les gens me disent « Ah, moi, je sais pas comment vous faites pour reconnaître ça ou si... » Mais en fait, c'est juste une question de concentration. Et je dis toujours que quand on rentre dans un ascenseur avec quelqu'un qui met le même parfum que vous, tout de suite, vous savez que la personne met le même parfum que vous. Et bien, quand on s'entraîne autour du vin, quand on se concentre vraiment sur les saveurs, sur la texture, sur tout ce qui a peut-être dessiné ce vin, ça permet de mieux l'appréhender, de mieux le comprendre. Et après, donc, on va chercher à déplacer des curseurs. Alors, je voulais essayer de trouver ça.
Écoute, Laurent nous a servi quelques gouttes dans les verres. Et le public a également le même verre. Donc, si jamais vous avez des hypothèses à émettre, vous levez la main et puis vous participez. Manuel, on t'écoute.
Ok. Écoutez, je vais vous le faire vite. Alors, les auditeurs n'ont pas la robe.
C'est autre chose de plus intéressant.
Mais
tu vas le leur donner.
La robe est un indicateur important de la densité du vin, peut-être de son encépagement, des fois de sa richesse en alcool et de sa maturité, voire de sa présence en sucre résiduel. Donc il ne faut pas épargner cette phase visuelle qui est très particulière, qui peut offrir comme ça un petit peu d'informations. Là, on a affaire à un jaune paille légèrement évolué, avec une brillance encore assez nette. Je pense que on a affaire à un vin relativement jeune encore, parce que la brillance, sachez-le, c'est un support de fraîcheur et c'est aussi un vecteur de l'acidité. Il y a aussi des larmes sur les bords du verre qui sont relativement denses et riches, elles coulent très lentement, qui vont donc aussi là m'influencer sur peut-être une orientation relativement dense de la maturité, puisqu'il faut savoir que plus on a de richesse en sucre, plus on peut avoir comme ça sur les bords du verre du glycérol, c'est ce qu'on appelle l'effet Marangoni, donc ça coule très lentement sur le bord du verre, mais là les larmes sont assez riches. Donc avec aussi un petit, quand même une petite pointe certainement de dorure sur la teinte comme ça, et puis des reflets un peu argentés, j'ai le sentiment en tout cas que ce vin a été un tout petit peu élevé sous bois, et aussi qu'il est né peut-être d'un cépage à intensité colorante légèrement soutenue, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. Voilà, donc en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire là, c'est d'éliminer un certain nombre de paramètres qui sont ceux de la maturité de latitude trop fraîche ou ceux de cépage trop clair et de vins qui ne sont pas forcément élevés qu'en cuve. Après, la dégustation va nous en dire un peu plus.
Parce que pour l'instant, il n'a même pas mis le nez dans le verre. Hein. Je précise.
Alors, aromatiquement, c'est intéressant parce que d'abord, on a un vin qui bénéficie d'une forme de générosité, d'ouverture et puis surtout, il est relativement avenant. On a donc plusieurs paramètres qui sont importants. D'abord, on soulignait tout à l'heure la présence ou la pseudo-présence d'un peu de puissance alcool. Mais c'est vrai que quand on a des bouquets qui sont très engageants comme ça, qui viennent tout de suite vers soi, on le sait parce que l'alcool est un support de saveur. Et donc là, on a cette dimension pomme rôtie, pomme cuite qui est très généreuse et qui vient tout de suite sauter au nez. Ensuite, on plonge un petit peu, je trouve, dans des nuances qui soulignent aussi des profils un peu sudistes, des petites touches de camomille, de miel, de choses comme ça qui s'invitent un petit peu dans la dégustation. Donc plutôt des notes d'infusion et de richesse qui, là,
je l'avais,
moi,
la camomille. Hein.
Camomille, c'est bon.
La camomille, je l'avais.
Moi, je suis un peu là-dessus, en tout cas. Y a une petite touche également à alcoolique, on le sent évidemment dans les travers du bouquet, on se penche un peu sur les esters, il y a une petite touche de vie de grain qui traîne un petit peu derrière, donc ce qui pour moi me conforte un petit peu dans l'idée d'un climat relativement chaud et peut-être d'un vin installé là où finalement la maturité est assez soutenue. En tout cas, pas de nuance boisée particulière, mais je pense que c'est peut-être un gros contenant ou alors c'est un vin qui a passé dans des 500 litres, juste comme ça, donc un fût qui marque peu. C'est un univers qui va, à mon avis, être beaucoup plus précis et clair en bouche.
On passe à la bouche. Hein.
Mais nous, on a déjà tout bu.
C'est ça. Bon, la bouche, d'abord, c'est très savoureux. Merci de me faire déguster cette bouteille, c'est très bon. Alors, c'est intéressant comme contraste parce qu'on a une attaque de bouche relativement pleine et dense qui me rappelle le dessin avec des nuances de pêche de vigne, de notes assez gourmandes et assez denses comme ça, le contraste de certaines cuvées. Moi, ça me rappelle certaines roussanes, par exemple. Je ne sais pas si vous avez ce relief-là, mais la roussane, qu'elle soit produite en Savoie, à Chignin-Bergeron, ou qu'elle soit produite en Vallée du Rhône, il y a toujours cet univers un peu pêche de vigne et miel qui, comme ça, me rappelle un petit peu ce confort, cette texture de bouche.
Puis
après, il y a c'est un coffre, c'est une largeur naturelle qui, voilà, me conforte dans l'idée que cette bouteille peut venir d'un climat relativement dense et riche. Après, il faut vous faire attention parce qu'elle est construite aussi autour d'une sensation acidulée relativement fraîche qui peut venir soit d'un caractère alpin, donc de l'altitude, qui peut venir aussi d'un pH d'une acidité naturelle dans les raisins qui peut être naturel. Donc il y a aussi, donc, par exemple, certains chenins qui vont tirer vers ça, notamment sur le secteur de Savenir en terroir angevin. Et puis, bon, si on va un petit peu, par exemple, en Savoie, à Chignin-Bergeron, il peut y avoir ce genre de contraste. Après, là, sinon, quand on descend un petit peu, bon, dans la vallée du Rhône, moi, j'ai le sentiment que cette bouteille pourrait être aussi né, pourquoi pas, dans un climat, alors ça dépend de l'assemblage de cépages, parce que là, on peut-être entrer dans la pluralité de la richesse des cépages et en climat sudiste. Mais en tout cas, il y a une petite pointe de lagineux, de fruits à coque, de choses comme ça, qui aussi me conforte aussi dans cette idée du léger passage de l'élevage. Alors je vais essayer de trouver en bouche, là je bois tout ce couloir.
Ça déguste.
Très très bon.
C'est vrai qu'il est joli ce vin.
Très expressif.
C'est très bon. Ce que j'aime, c'est le contraste. C'est d'ailleurs très fort parce qu'il y a attaque riche et fraîcheur salivante très saillante. Donc, beaucoup de paramètres. Très complet, très riche. Malolactique fait ou pas? Bonne question. Je pense que oui. Relativement... un peu nature aussi, je pense, dans l'approche, donc des fermentations avec des petits esters alcooliques ici et là qui peuvent être, à mon avis, liés à une richesse de vendange et à des fermentations qui vont un peu vite. Mais globalement, pour revenir juste au plaisir pur et au contraste, j'ai le droit à combien de chances, hein?
12, autant que tu veux.
60. Alors, instinctivement, comme ça, je sais pas si... Enfin, je pense que, voilà... En 10 secondes, comme ça, moi j'aime bien penser à ce caractère presque dense de la roussane dans un caractère alpin. Je pense qu'un Chignin-Bergeron ne serait pas stupide sur cette genre de réponse. Ma deuxième option, ça serait parce que voilà, en climat angevin, on arrive aussi dans des richesses alcool élevées, avoir des contrastes richesse de densité acide. Je ne sais pas s'il y a un petit peu de sucre résiduel, mais en tout cas, c'est un vin qui voilà, a ce contraste-là. Et ça pourrait être, pourquoi pas, un beau chenin sur schiste de l'Anjou, mais j'y crois un peu moins quand même que par rapport à ma première ambition. Et puis après, j'ai des plaisirs comme ça aussi qui peuvent être différents, mais plus en climat sudiste. Alors là, je m'éloigne un petit peu peut-être du sujet, mais des fraîcheurs salivantes comme ça, à part peut-être dans certains secteurs de la vallée de l'Agly, sur du grenache gris, complété d'un petit peu d'autres cépages, peut-être roussanne, je ne sais pas. Voilà, le vin, c'est un dessin incertain. Alors je ne sais pas si je suis dans le...
On peut dire que c'est un monocépage.
C'est un monocépage, d'accord.
Ouais, Laurent, c'est Laurent qui vend ce vin au Wine Therapy, qui participe pas à l'émission, mais qui va quand même dire un petit mot.
Est-ce que c'est un des cépages qu'on a cité ou
Salut
pas,
Laurent.
Salut.
Approche-toi du micro.
Pas tout à fait, mais en fait, bon, c'est amusant parce que on insiste beaucoup sur la fraîcheur finalement, oui, alors qu'on est dans un climat très très chaud.
Bon, l'analyse de départ était relativement.
Approche-toi du micro, Laurent.
Dans l'Aude.
On est dans l'Aude. Ouais. Tout à l'heure, on a bu un peu du Limoux, des Hautes-Terres. Et là, on est en Corbière.
On est, Grenache gris, donc.
En fait, c'est un Carignan blanc.
C'est un Carignan blanc. Ah, voilà. Bon, donc, cépage plutôt rare et ouais, très intéressant rare, ouais. du sud de la France.
Je t'ai dit qu'ils étaient comme des fous. Hein, ils
sont écoutez, un peu tentés d'aller loin.
Vous aurez évidemment et plein d'occasions de me piéger. Mais ce qui compte, en tout cas, dans la quête des blancs du sud aujourd'hui, et ça, c'est peut-être la leçon de ce vin, c'est l'envie de refaire naître d'abord des cépages qui portent évidemment cette gaieté de fraîcheur, ce sentiment de salivant et autres en finale de bouche, que n'avaient pas évidemment les autres cépages qu'on a connus dans l'Aude ou dans le Roussillon, voilà, sur ce bassin méditerranéen. Et on les a considérablement affinés, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu d'où on vient dans cette région où il y a 25 ans, il y avait 75% de vin de pays, pour faire maintenant... Voilà. Et le Carignan Blanc, c'est ce qui a fait connaître Olivier Julien et plein d'autres très grands domaines dans le sud de la France, dans l'Hérault notamment.
Voilà, c'est un Carignan Blanc de chez Xavier Lidogard, donc en Corbière-Boutenac. Donc
Corbière-Boutenac.
Sur la partie,
Xavier et Mathieu.
Ouais,
Xavier les deux frangins.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Et après...
Le Dogard.
Exactement. Et donc effectivement, le Carignan était en voie de disparition. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, parce qu'en 2016, il y en avait 200 hectares. En 98, il y en avait 1000 en France. Donc c'était un cépage qui en régression, et je pense que c'est un cépage qui là le prouve,
qui revient bien
et qui doit revenir
dans la veine. Évidemment, on sait que ça vieillit très bien, c'est Carignan Blanc. Donc ça, c'est exactement la magie de ce cépage, c'est qu'il a une vertu à l'évolution incroyable.
Donc il a un caractère frais naturellement, et je pense que le
fait vendanges que... quel millésime
sur 2016.
Ouais, j'aurais 2016. Été par là,
2016,
ouais.
Et on a donc une fermentation alcoolique en fût, en des fûts un peu vieux.
Des gros fûts, ouais.
Des fûts de 3-4 ans.
D'accord.
Et le reste après du travail se fait en cuve.
Bon, écoutez, j'avais des pistes méditerranéennes, mais sans être complètement convaincu. Ah,
quand t'es venu à la vallée de l'Agly, tu te rapprochais quand même.
Mais en fait, la vallée de l'Agly, parce que les crenages gris. Qui sont des cépages sur schiste très saillants en finale de bouche, ont ces finales là. Mais évidemment, le vin, c'est l'école de l'humilité. Parfaite illustration.
La démonstration était passionnante. Donc effectivement, c'est plutôt argile calcaire, assez pauvre. Et je pense que le travail de Xavier, donc, est en biodynamie, alors pas comment dire, déclaré, parce que ça lui paraît très très cher. Et puis comme il dit. C'est ceux qui travaillent bien qui payent.
Donc l'agrément, c'est un fût. C'est le prix d'un fût, il faut le savoir.
Exactement.
Donc l'agrément biodynamique, c'est le prix d'un fût. Donc il y en a qui disent je préfère acheter un fût.
Exactement. Donc, même s'il n'est pas déclaré, il a 10 hectares sur ses 20 hectares qui sont biodynamiques. Et donc il a des carignans blancs. Et donc je pense que la minéralité, la salinité, on sait que le processus de vin, c'est une fermentation, mais c'est surtout un processus de minéralisation. Donc d'intégration des éléments du sol. Et donc là, je pense qu'ils ressortent bien grâce au travail en biodynamie.
Et en termes de philosophie, je trouve que ça fait un peu écho à ce domaine portugais dont tu nous as parlé, c'est-à-dire quelqu'un qui, au milieu des Corbières, où il y a une tradition plutôt de vin lourd et puissant, les frangins Lodegaard, c'est plutôt une démarche qui va vraiment chercher la fraîcheur, la buvabilité, quelque chose de très léger. On est plus dans la fusion que dans l'extraction. On est dans quelque chose de plus léger possible. Il aime aussi se départir de ses confrères vignerons autour de lui qui font pour lui des vins un peu trop lourds. Et voilà, il propose ce genre de choses. Alors, qui sont
je ne sais pas quel degré d'alcool il est, le Carignan. Ouais.
Moi, ce que je trouve merveilleux et vraiment magique, et qui m'a donné envie de lancer ces petites soirées jeu du sommelier d'un soir, ou tu vois, c'est ma façon de m'y prendre pour les ateliers de dégustation, c'est le raisonnement en fait. Ce qui est très intéressant, c'est le cheminement.
Bien sûr.
C'est un tel exercice sensoriel et intellectuel de se poser la question de l'alcool, de la viscosité, de la couleur, des arômes, etc. Et moi, je trouve absolument génial que tu nous aies parlé des Chiniens Bergeron, parce que c'est très évocateur pour moi du travail de Berlioz. Et je reconnaissais ce côté, effectivement, un peu aubépine, abricot,
aussi,
fruits, voilà, fruits jaunes à noyaux. Et c'est ultra pertinent. Et la question n'est plus de savoir si tu tombes sur le bon domaine et la bonne cuvée. La question est de savoir si tu as compris la structure du vin.
Ouais. Et moi, j'avais une attaque large comme ça, et cette succulence du fruit. Ouais. Et puis après, derrière, côté traçant, je me suis dit, il y a un contraste, donc il est forcément apporté par quelque chose. Donc pour moi, c'était une équation.
Mais t'écouter avec ce cheminement de pensée, c'est déjà un régal.
Merci. Alors,
Pour dire que le Carignan est une réponse au réchauffement climatique.
Bien sûr.
Travailler comme ça. Parce qu'on a que 200 hectares, mais on pourrait faire plus dans le sud. Et plutôt que de prendre des cépages hybrides dont on ne sait pas trop l'origine, la conception, etc.
Et le futur.
Je pense que revenir dans des vieux cépages historiques, bien sûr, sur leur terroir d'origine, est la meilleure réponse.
Puis même s'ils sont résistants à toutes les maladies qu'ils connaissent, sont peut-être pas résistants à d'autres maladies.
Mmh. On parle des hybrides là, oui. Effectivement, les vieux cépages sur leur terroir d'origine sont.
Les problématiques ont changé. On cherchait des cépages rentables, faciles à travailler. Aujourd'hui, on cherche des cépages qui nous apportent de la fraîcheur, de la salinité, des choses et des surprises aussi.
Quel chemin parcouru dans les Corbières depuis tant d'années. Incroyable.
On a une région qui révolutionne le vin.
Il y a une cave coopérative qui ferme toutes les semaines là-bas. Il y a un talent qui sort. Enfin, c'est ça qui est fou. Quoi. Mmh. La balance est en train de
changer.
On aime jouer, alors on n'a pas pu s'empêcher de mettre un deuxième vin.
Un deuxième, vous avez compliqué un peu, je vois, la robe.
Et on finira avec ça. Alors, il est très différent dans l'aspect déjà.
Il y a
5
minutes, c'était encore un pote, tu vois, Manu. Là, il n'y a plus un pote.
Non, mais vous avez décidé de jouer jusqu'au bout. Et je vous attends tous ensemble, l'équipe, là.
Non, on est très joueurs.
Chez Chef d'œuvre, la prochaine soirée blind-blind. Alors.
Oui, c'est ça, c'est les soirées blind-blind.
Tout à l'aveugle, oui.
C'est double aveugle en fait, c'est ça
que ça veut dire. L'aveugle.
Donc on voit pas le verre dans le.
Alors sache que moi je voulais te masquer et on m'a interdit de.
Moi je trouve ça intéressant de commenter aussi sur la couleur, l'aspect. Le côté vert noir m'ennuie un peu.
Bien entendu. Voilà.
Bah là on a un deuxième.
Je suis pure méchanceté.
Intéressant à commenter parce que il reflète d'abord. Moi ce que j'aime dans le vin c'est la manière dont on déplace les curseurs de la curiosité et de ce qui va lui permettre d'apporter comme nuance de réflexion à la propriété, en termes de domaine, mais aussi en fonction de ce qu'aiment aussi un peu les consommateurs. Là, on a un vin qui reflète, à mon sens, toute une nouvelle génération de gens qui se fichent un petit peu, finalement, de la robe complètement claire et limpide d'un blanc, puisqu'on a affaire à quelque chose d'un petit peu voilé, un petit peu laiteux, presque même, sur un blanc, avec des reflets topaz à l'intérieur d'un disque relativement brillant et doré, mais on a presque affaire à un vin, vous savez, de macération. C'est marrant parce qu'on a ça me rappelle, moi en tout cas, quand je le regarde comme ça, des vins qui ont donc on fait du skin contact. C'est une technique qui permet d'extraire de la richesse aromatique à l'intérieur des peaux. Et dans l'univers des vins oranges, dans tous les vins bio, nature et tout ce qu'on croise maintenant, dans cette nouvelle époque que nous offre le vin, évidemment, on en a de plus en plus de robes comme ça. Alors, certains crieront au
scandale.
mais c'est impossible, etc. Moi, je suis quand même relativement curieux parce que j'aime la richesse de goût, j'aime la saveur, même si j'ai quand même, il faut l'avouer quand même, ce genre de type de vinification, style d'élevage ou autre, brouille un petit peu l'épice, ça a tendance quand même à amenuiser un petit peu le potentiel aromatique d'un ou tel cépage ou de tel ou tel type de sol.
S'éloigner du terroir peut-être.
Néanmoins, après, qu'est-ce qu'est le terroir, le goût de terroir, enfin, chacun mettra le curseur où il veut. Alors, je vais essayer de dénicher un petit peu les origines de ce vin. Alors, dans ce vin, en fait, aromatiquement, c'est relativement fermentaire. On a presque, je ne sais pas si vous avez ces réflexes-là, mais moi, j'ai des nuances de gueuse, vous savez, ces bières.
Ouais, c'est ça, la bière aussi.
C'est du cidre.
Un peu style lambic comme on peut avoir chez Cantillon, par exemple.
C'est très levure.
Donc, un univers qui rappelle un petit peu le houblon, qui rappelle la bière, qui rappelle la pomme cuite, comme ça. Donc, un contraste sour et avec l'amertume, bitter and sour. Et ça suggère comme ça quelque chose de plutôt macéré, plutôt peut-être même élevé en amphore. On a beaucoup de contrastes qui sont apportés comme ça par les contenants aujourd'hui. Mmh. Et dans beaucoup, pas mal de vins, ceux qui aiment en tout cas la diversité du contenant qui accueille le vin, qui le permet d'être élevé, il faut savoir qu'il y a pas mal de vins qui reflètent comme ça quand ils sont élevés en amphore, c'est un genre de nuance. Après, c'est relativement monolithique, monochrome, on peut plonger dans quelques nuances ici et là, on va tirer un peu le curseur sur quelques petites touches. Mais on a un peu la peau de pomelos, les choses comme ça, donc le pamplemousse, le côté blanc de la peau du pomelos. Et puis surtout, moi, ça m'amène vers un plaisir presque belge. Non, mais sincèrement, ça a presque des fragrances.
La carbonade, là.
Sur certaines grandes bières, sincèrement. Voilà.
Alors aussi, ça m'évoque la bière. En plus, il y a de l'agrume, il y a limite un côté IPA. Bière un peu amère, là.
Amertume et
agrumes.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la bouche est... Je m'attendais à quelque chose de plus... Enfin, là, j'aurais simplement fermé les yeux, bu le vin pour ce qu'il est dans un verre noir. En bouche, on a quelque chose de relativement... de beaucoup plus net et plus canalisé que ce qu'on aurait pu imaginer au parfum. Donc ça, c'est plutôt un bon... pour moi, un très bon... signe, puisque on a quelque chose de relativement cohérent, de structure de bouche, il n'y a pas d'ester alcoolique dévié, il n'y a pas de nuances trop, enfin, il n'y a pas de gros défauts, entre guillemets, de toute la mouvance un peu nature, dans lesquelles, des fois, bah, effectivement, les esters ne sont pas très nets. Et donc, ce que j'aime, c'est qu'il est relativement homogène et complet. Donc, attaque de bouche crémeuse, onctueuse, bien salivante au milieu, pas trop de structure alcool. Ça ne veut pas dire que je vais trouver ce que c'est, mais sincèrement, j'aurais beaucoup moins plus de mérite à ne pas trouver ce que c'est sur ce vin-là que le vin précédent. Hein, donc, en tout cas, c'est un petit côté confiture d'orange amère. C'est relativement appétant. Je me vois bien à l'apéro avec quelque chose d'un petit peu comme ça, sympa, avec une cible aussi, avec un public qui aime bien ce genre
de vin. C'est assez léger, c'est pas...
Ah non, c'est relativement digeste.
En bouche, c'est très léger.
Structure alcool modérée. Alors là, bon, globalement, je pense qu'on a plus à faire à un vin qui est né d'une volonté de faire quelque chose que de quelque chose qui reflète typiquement quelque chose de très identifié et de très identifiable maintenant. Donc, plutôt complexe à saisir. Maintenant, la légèreté, le caractère appétant, agrumé, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu d'élevage, c'est marrant. Hein, parce que j'ai en rétrofaction, j'ai un petit côté de lit. J'ai un petit côté lit. Parce que ça me rappelle aussi, il y a un petit élevage sur ce vin. Parce qu'en rétro-olfaction, comme ça, quand on reprend le vin par le nez, il y a tout cet univers, une petite patine très légère. Alors la question, c'est dans quoi ? Du fût, certainement. Et,
on voudrait la marque du fût.
Alors, c'est drôle, mais en fait, j'arrive à reconnaître les tonneliers en Bourgogne maintenant. Bon.
Ça me fait rire, moi ça me fait pas rire du tout.
Savoir qui a courbé le métal du tonneau.
C'est effrayant.
Mais on arrive de manière assez ironique à retrouver la signature d'un fût François, d'un fût des Chassins, d'un fût d'Amis, etc. Mais là, je sais pas, ça me. Après, je suis déconcerté par l'univers aromatique, évidemment, cette patine ou blonde, etc. C'est quelque chose de particulier. Pour le côté Wild Wild West, je me dirais... C'est assez nature, donc je me dis que tomber à côté ne sera pas complètement faux. Allez. C'est très très complexe.
En indice, on est plutôt dans le nord, je crois.
Moi, bien sûr, je suis en saveur de latitude nord, mais j'hésite entre la vertu d'un Riesling qui aurait tiré comme ça sur la dimension... Mais comme il y a une petite patine de fût, ça me gêne un peu. Donc en fait, je reviendrai plus sur un cépage de type terpénique, de type aromatique. Ça pourrait être peut-être du Sauvignon qui fait du skin contact, sur lequel on tire l'orange amère et qu'on a élevé comme ça. Et donc, je ne sais pas. Ou alors, peut-être encore une fois, la Loire. Mais la Loire, nul n'est censé l'ignorer. Donc, je ne sais pas. Il faut...
Je leur ai dit que tu étais fan de Loire aussi.
J'aime bien la Loire, effectivement.
On n'est pas dans la Loire. On est en monocépage et on n'est pas dans la Loire.
C'est monocépage et c'est de quelle région, donc ?
Alors Marie, c'est toi qui
as
apporté ce vin.
C'était pas mal.
Il y a une fille à l'origine de ce choix. Ah. Mais évidemment, encore une fois, pour entendre ton cheminement de pensée et pas pour te piéger du tout. On est au domaine Pierre Frick, donc le vin de Chantal et Jean-Pierre. Et alors, tu as dit plusieurs choses qui m'interpellent. Tu as parlé de phénomène de mode, ou en tout cas de cet engouement actuel pour les vins de macération. C'est un vin de macération.
Bon.
C'est un domaine qui est en biodynamie et qui est bio d'abord depuis 70 et en biodie depuis 81.
Bien sûr.
Qui se targue de ne pas fabriquer des vins, mais de les élever. Mm-hmm. Et donc, juste pour rappeler quand même que là, on est comment ?
Belle formule, oui.
Oui, on est à l'origine du vin en réalité, puisqu'il y a 8000 ans, en Géorgie, on fabriquait le vin comme ça, dans des amphores enterrées dans le sol. Voilà, sans foulage, etc. Donc là, c'est un petit peu l'objet. Pas de foulage, levure indigène, tu l'imagines. Pas de correction d'acidité, pas de collage. Enfin bon, tu l'as dit, c'est un vin nature.
Et le cépage ?
Attention, j'y arrive. Alors, tu as parlé d'amenuiser le potentiel par la macération. Et la plupart du temps, je suis complètement d'accord avec toi. Ça aurait pu être un Lestignac, Sauvignon, Skin Contact. Et justement, là, je trouve qu'il est allé chercher un cépage alsacien à côté duquel on est tellement Sylvaner, passé. Hein. Voilà. À côté duquel on est passé en se disant c'est d'une discrétion, c'est sympa sur les huîtres, ça ira deux minutes. Et je trouve qu'il l'emmène ailleurs avec la macération. Alors c'est un peu perché, c'est un exercice de style, mais vraiment j'aime beaucoup. Et le terroir aussi, je trouve qu'on sent. Alors le terroir, c'est l'est sur calcaire. J'espère que ça se dit comme ça.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est merci pour le débrief.
Ouais. Mais c'était
dans le
jeu.
Tous les jours dans le vin. Et ce qui est beau dans ce vin en fait, c'est qu'effectivement il nous amène dans des travers aromatiques. Il faut savoir que la mode des vins de macération et des vins orange fascine, et notamment des générations relativement jeunes qui se disent le vin ça peut être aussi un peu plus fancy et
un peu rock'n'roll
comme ça. Alors qu'en fait c'est revenir aux origines.
Alors tout à fait.
Pour la France hein, mais pour le monde du vin.
Oui, dans l'univers du vin, moi je suis pas sûr que, vous savez, c'est comme si on disait on revient à l'origine de la voiture et alors qu'aujourd'hui on fabrique des voitures électriques qui ont 500 chevaux. En fait, je sais pas s'il y a Moi, ce que je pense, c'est que les gens s'épanouissent dans la diversité dans le vin. Et donc, il faut savoir quel public on a. Je crois que la meilleure des choses, c'est quel public on a, c'est l'intelligence de la situation. Quel public on a, quel moment on a, et éventuellement quel mets on a. Parce qu'il y a aussi
c'est un vin d'accord, tu l'as dit. D'accord
qu'est-ce qu'on met là-dessus
Ah, du kumquat de confit, des choses comme ça.
Ça marche très bien sur les.
Sur d'accord, mais bon, on est pas
Non, mais moi, j'aime début de la deuxième émission.
J'aime beaucoup les vins de macération, bah d'abord pour leur diversité aromatique. Moi, j'aime beaucoup un beau fromage et une petite marmelade d'orange. Et comprendre en fait le contraste, l'amertume, les choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et pour les papilles, c'est très enjoué. Ce que j'aime aussi dans ce vin, c'est que c'est relativement structuré faiblement en alcool. Enfin, en tout cas, c'est hyper digeste. C'est la vertu des vins un peu nature, entre guillemets. C'est que
on est à 12,
côté un peu vaporeux comme ça et fin qui fait que ça rend la chose plus joyeuse et fine. Après, évidemment, quand on l'amène un peu à table, moi j'aime bien tout ce qui est poisson cru et au contraste de l'agrume. Et donc le kumquat confit, un petit cœur de saumon un tout petit peu fumé, comme ça, le petit kumquat confit, une petite crème acidulée, clac, dans une cuillère, c'est un amuse-bouche d'enfer. Le vin tombe dessus, ça fait exploser la grume, c'est énorme.
Un petit sushi pour toi, ça fonctionne ?
Le sushi fonctionnerait. Alors le sushi, pas avec de l'avocat, oui, du gingembre, du machin, du truc, mais
on part pas en Californie.
Quelque chose d'un peu trop, un peu épuré. Ouais. Moi j'aime la cuisine de l'épure. Je pense que c'est des vins, il faut pas, par leur structure, il faut quand même les respecter. Alors, il faut pas aller trop loin.
Et est-ce que je peux terminer sur l'élevage ? J'ai vraiment une demi-seconde pour dire comme je suis bluffée, parce que c'est un élevage de 10 mois sur lit, tu l'as dit, dans un contenant vaste, tu l'as dit aussi, qui est un foudre de chêne ancien. Voilà.
Oui, ben, il y avait un petit passage sous bois qui m'a rappelé ça, en tout cas.
C'est éblouissant, il n'a pas trouvé exactement où on était, mais alors il a remonté par ce chemin de raisonnement et de déduction jusqu'à plein d'éléments qui fabriquent, qui font effectivement ce vin. Pour résumer,
moi je pense que, juste pour rappeler que la constitution de la cave, je trouve que c'est un projet intéressant dans l'offre chef-d'œuvre
héritage
pour les enfants. Donc voilà, je souligne ça parce que je trouve que c'est un truc sympa, que je vais peut-être faire d'ailleurs.
Et original. C'est la première fois que je le voyais.
Là, c'est vraiment le signe de la transmission, enfin, de manière concrète.
Parce que, mais en fait, on a toujours écouté nos clients. Nos clients nous ont dit moi j'ai des enfants et moi j'aimerais transmettre la passion du vin aux enfants. Donc il fallait offrir quelque chose comme ça qui permettent à chacun de se constituer tranquillement la cave qu'on a envie de transmettre. En fait, on a tous envie de transmettre quelque chose à ses enfants et pour ça, c'est l'offre...
Qui sont conservés dans les crayères de région parisienne, c'est ça ?
Aux crayères des Montquartiers, ici les Moulineaux, pour ceux qui veulent, et puis sinon, chez eux directement, pour ceux qui ont une belle cave, simplement, c'est la meilleure façon.
Manuel, pour finir, j'ai trois petites questions à te poser, tu vas répondre très très vite.
Bien sûr.
Est-ce que tu as envie de devenir meilleur sommelier du monde ?
Je vais essayer.
C'est vrai,
j'ai très envie.
Tu te lances dans le concours, tu te prépares.
Oui, j'ai fait beaucoup de concours, je me suis beaucoup consacré à chef-d'œuvre et aujourd'hui, chef-d'œuvre atteint une certaine maturité qui me permet de dégager un peu de temps Puis le projet intellectuel est tel que j'ai envie de aussi peut-être de donner un peu d'élan à l'équipe de France, parce que c'est une équipe, et d'accompagner d'abord mon collègue Benjamin Roffet au concours du meilleur sommelier d'Europe en m'entraînant un peu avec lui, mais surtout après, voilà, et j'ai envie de tout faire pour faire rayonner la France dans ce beau métier qui est la sommellerie.
Métier de sommelier, est-ce que ce métier de sommelier que tu as exercé dans des grandes tables, des étoilés, te manque ?
Oui, complètement. En fait, l'adrénaline du service, c'est une rencontre à chaque table, c'est un challenge à chaque table.
Une relation avec le chef aussi,
peut-être. Et puis c'est une relation avec le chef, c'est l'excellence de la gastronomie. Il faut comprendre que c'est comme quand vous avez fait de la Formule 1 dans une grande écurie, vous étiez chez Ferrari, c'est complexe de se dire qu'aujourd'hui on fait du kart. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de faire un peu de Formule 1 à mes clients, et je crois que la sommellerie restera toujours un peu ça, mais vous inquiétez pas, le bar à chef-d'œuvre arrive bientôt et on va refaire de la sommellerie très fort.
Formidable, tu arrives même à faire les transitions. La troisième question, c'était ça. Quels sont les projets majeurs pour chef-d'œuvre en
Les
deux
projets majeurs pour chef-d'œuvre, c'est simplement d'améliorer un petit peu encore ce qu'on a déjà créé, mais surtout de recréer dans Paris, intramuros plutôt, donc 8e côté 9e ou vice-versa, un lieu de vie qui soit donc non seulement ouvert à nos membres, mais avec nos membres, c'est-à-dire qu'on va simplement faire une chose qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le capital, une partie du capital de ce bar à vin à nos clients en disant, écoutez, ce bar à vin, on l'ouvre avec vous et pour vous. Voilà.
Formidable. Coopérative. Super.
Coopérative du bar à vin, voilà, encore des projets. Toujours. Toujours en avance sur son temps. Merci infiniment, Manuel Perrondet, pour,
c'était un vrai plaisir,
pour ce moment passé ensemble. On a évidemment explosé le temps, mais c'est pas grave.
Merci de t'être plié à l'exercice aussi.
Oui, voilà, d'avoir joué ce jeu-là. C'était vraiment passionnant. Avant de se quitter, j'ai juste quelques annonces à faire. D'abord, un grand merci à Sylvain de l'agence Room 22 qui nous a permis que cette soirée soit là, dans ces conditions-là. Voilà. C'est l'homme qui nous accueille dans les murs où nous enregistrons chaque enregistrement. Mais là, aujourd'hui, en plus, il y a du public que vous venez d'entendre. Merci à Laurent Delsou qui n'était pas au micro. Enfin, il a quand même fait un petit tour et qui nous a servi. Voilà. Je rappelle les vins qu'on a dégustés. Manuel, tu es venu avec un vin du Douro, du domaine Niporte. C'était une cuvée Redoma Reserva. Ensuite, on a essayé de te faire deviner un vin du domaine Ledogar, Xavier et Mathieu Ledogar, en Corbière, qui faisait un magnifique Carignan Blanc. Ils ont aussi un Saint-Saul qui est sublime. On adore Xavier Ledogar et ses vins. Et on a fini avec un vin du domaine Pierre Frick, un Sylvaner d'Alsace, un vin de macération, ces fameux vins oranges dont on parle. Et cette fois, on a pu en goûter un petit peu. Encore une petite annonce. Le jeudi 20 février 2020, c'est une date qui est assez facile à retenir puisqu'elle est composée essentiellement de vin et d'un peu d'oxygène. On vous propose de se retrouver tous ensemble dans un bar à vin. Alors, un bar à vin, évidemment, nous, une thérapie. Rue de Montauban à Paris, le vin de l'ami Laurent. Laurent, on sera là, on sera pas seul, parce qu'on a invité quoi ? On a invité d'autres podcasts, des podcasts œnophiles. Ils n'ont pas encore tous répondu. Sachez que l'excellent podcast Le Bon Grain de l'Ivresse sera là, et on fera probablement ensemble un petit peu de son, mais surtout on va se rencontrer, on va boire des vins, on va passer une soirée autour du Winecast, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous souhaitez réagir à cette émission, ou pourquoi pas si vous souhaitez y assister lors d'un prochain enregistrement en public, écrivez-nous sur le site laterraboire.com ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de quoi ? De verres. Oui, les verres avec lesquels on boit le vin. Figurez-vous qu'ils ne se voient pas. Ils se valent pas tous, pardon. On a recours à la science pour optimiser leur forme, leur épaisseur, pour nous permettre d'apprécier au mieux le travail des vigneronnes et des vignerons. C'est le cas des verres Sidonius, et c'est justement Antoine Schwartz de la maison Sidonius que nous recevrons dans une paire de semaines. Merci Manuel.
Merci à toi.
Bonne année. Longue vie à chef
d'œuvre. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Merci Marie. Merci
avec plaisir.
Patrice.
Merci public.
Et merci Jacques qui était à la technique ce soir et qui a tenu la console, qui est toujours un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui s'occupe du son. Allez, à bientôt. Ciao.
À bientôt. Ciao.
Ciao. Au revoir.